Bonsoir, chères auditrices. Bonjour. Je suis heureuse de vous retrouver. J'étais absente à cause d'une opération nécessaire et maintenant tout va bien. Je tiens à vous demander pardon pour quelque chose qui n'est pas de mon fait. J'avais demandé que l'on vous passe en janvier une de mes émissions les plus gaies enregistrées et que cette émission dédiée à mon père se termine par les valses de Vienne. Et on vous a passé une émission sur la mort. Et maintenant, je vous l'annonce, en vous souriant. Je vais fêter mon retour sur les ondes de Radio Courtoisie avec mon philosophe préféré, qui m'a fait l'honneur de revenir pour deux émissions. Et nous allons aujourd'hui continuer de parler de son livre « La vraie morale se moque de la morale », car nous n'avions pas terminé. Sachez que j'ai le bonheur de dédier cette émission à Nina. Nina Prêtre, fille de mon neveu Alexandre, petite-fille de mon frère Jean-Rénald, arrière-petite-fille de mes parents Georges et Gina. Elle est née fin janvier. Je vous ai habitué à vous raconter bien des choses, car vous êtes mes amis. Il me semble donc naturel de partager avec vous ce grand événement de ma vie. Et maintenant, je me tourne vers le philosophe et le théologien que vous aimez, Bertrand Vergely. Bertrand Vergely, cher Bertrand, bonjour.
Chère Isabelle, bonjour et merci pour votre accueil.
Je vais me répéter, mais cela n'a aucune importance. Je suis vraiment enchanté de vous revoir. Cher Bertrand, nous allons aujourd'hui, comme je l'ai dit, continuer de parler de votre livre « La morale se moque de la morale ». Livre paru aux éditions Guy Trédaniel. Et pour ceux qui n'auraient pas écouté notre dernière émission, je redirai simplement qu'il s'agit d'un livre fort, original, où la psychologie, la vôtre particulièrement, joue un grand rôle. Bref, c'est un livre riche et qui dépasse la morale. Un livre, oui, une fois de plus, où souffle le vent du large. Ce qui est rare, reconnaissez-le, dans un livre dont le sujet est la morale. Mais avant de vous poser une question concernant ce livre, je me permets de vous demander, cher Bertrand, comment allez-vous ?
Mais écoutez, j'ai l'impression d'aller bien. Et c'est mieux que de dire je vais bien. Parce que on peut aller bien et puis le dire distraitement. Ou alors on peut vivre le fait d'aller bien. Et donc j'ai l'impression de pouvoir vivre ce fait. Voilà. Alors c'est vrai que je lis d'autant plus que j'ai eu quelques sérieux problèmes de santé. Et donc maintenant je savoure le fait d'être au-delà de ces problèmes.
Personnellement, je vous vois aujourd'hui en super forme. Hein.
Écoutez, c'est ce qu'on me dit.
Ah oui.
Donc je me sens bien. Je crois que c'est lié aussi à une éthique de vie. Et j'essaye de mettre en parole et en pratique cette parole d'Hippocrate qui disait que la nourriture est le premier des médicaments.
Vous avez changé votre nourriture ?
Ah oui. J'essaye d'être vigilant.
Donc,
supprimer le sucre. Pas de sucre.
Ah, vous avez supprimé le sucre ?
Pas de sucre.
Oh, je serais malheureuse.
Vous avez 5,5. Vous avez les pâtes, les patates, le pain, les pâtisseries et le pinard. Voilà.
À supprimer ?
Oui.
Vous avez supprimé tout cela ?
Oui.
Et vous êtes resté toujours aussi gai ?
Écoutez, j'essaie.
Je vous vois toujours aussi gai.
Mais de temps à autre, il y a des moments, je bois un bon coup de champagne. J'espère qu'un jour, vous me ferez le plaisir de lever cette coupe que vous me promettez depuis des années, mais qui reste suspendue dans l'air de notre amitié. Et puis d'autre part, oui, il y a le plaisir. Si vous voulez, il y a une ivresse du bien-être qui remplace la douce ivresse du vin, que j'aime beaucoup, mais beaucoup trop. Donc je préfère
vous abstenir.
Voilà, je trouve que ça fait du bien. Vous savez, dans les évangiles, il est dit, que, comme dans les psaumes, qu'il faut manger du pain, mais il faut se nourrir également de faim. Et donc, il faut communier aux deux espèces, au pain et à la faim. Voilà, donc ça, c'est très bien.
Oui, à condition quand même qu'elle soit exaucée, la faim.
Oui. Non, mais...
J'ai rien à attendre
pas
pour
d'excès,
un plaisir.
Pas d'excès. Oui. Et parfois, il faut savoir rompre le jeûne en déjeunant.
et en prenant un bon vin, un très bon repas, avec des pâtisseries, avec des patates et avec du pinard. Voilà.
Bon, eh bien, écoutez, si ça vous fait du bien,
oui.
J'applaudis.
Oui, 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 oui.
Voilà. Bertrand, alors là, bien sûr, on avait quand même posé beaucoup de questions la dernière fois.
Oui, on va continuer.
Voilà, on continue dans les questions. Alors, vous mentionnez le lien entre la colère et la tristesse. Et vous avez raison. Mais je vous laisse continuer.
Oui, vous savez, dans les passions qui emmènent en enfer, il y a bien sûr la gourmandise, il y a la luxure, c'est-à-dire le détournement de choses qui sont en soi excellentes. Vous voyez, à la fois le désir et en même temps la soif et la faim. Et il y a quelque chose qui est lié à la colère et à la tristesse, qui fait... Alors je l'ai appelé, j'ai dit que la colère était une tristesse bruyante et que la tristesse était une colère silencieuse. Alors j'ai un peu détourné, si vous voulez, les passions telles qu'on les entend, parce qu'il y a eu plusieurs formulations dans les passions qui emmènent en enfer. Et bien évidemment, depuis le temps où Évagre le Pontique exprime ses passions dans le cadre de la pratique spirituelle, et aujourd'hui, de l'eau a coulé. Mais je crois qu'il faut ressaisir l'inspiration qu'il y a derrière tout ça. Tout vient de la vie divine. La vie divine est l'expérience d'une merveilleuse présence qui est à l'intérieur de soi et qui permet de comprendre ce que veut dire Dieu. Dieu, c'est le Dieu vivant, et le Dieu vivant, il est à l'intérieur du cœur. Nous posons souvent Dieu en termes, si vous voulez, cosmologiques et politiques. Est-ce qu'il y a un créateur à la base de toute chose ou pas? Donc c'est une discussion qui est métaphysique et qui est complètement théorique, qui a son intérêt, je ne le conteste pas, mais qui ne va pas nous rendre la saveur de Dieu. Dieu, ça se mange, ça se boit, c'est savoureux. Ce n'est pas simplement qu'il existe, il est vivant. Et il est vivant à l'intérieur de nous. Et je souhaite à tout le monde de pouvoir faire cette expérience de la divine présence à l'intérieur de soi. C'est quelque chose de tellement savoureux que véritablement, je le souhaite à tout le monde. Alors, il y a tout est fait dans l'Église, dans la pratique liturgique, dans la prière, dans la méditation. On a tous les moyens de faire vivre cette présence. Et cette présence, elle vit, elle est révélée partout à travers le monde, dans toutes les sagesses, y compris celles qui ne sont pas chrétiennes, mais qui permettent de faire vivre cette présence.
Oui.
Donc pour moi, la question de Dieu ne se pose pas. Maurice Zindel disait, Dieu, ce n'est pas ce que je crois, c'est ce que je vis. Je dis exactement la même chose.
Moi aussi. Voilà. Mais je pense même que c'est notre vie, Dieu.
Oui, c'est l'essentiel parce que vous vous centrez dans la divine présence et vous recevez tout par surcroît. Et vous allez avoir une vie quotidienne délicieuse, merveilleuse,
je vous rejoins
bien rassemblée et tout. Alors, l'énorme problème qu'il y a dans la vie, c'est que ce qui est très bien, c'est que c'est difficile. C'est difficile de se centrer sur la vie divine. Et il y a des passions qui nous poussent à l'extérieur de la vie divine. Alors, bien évidemment, les deux premières passions, c'est celles qui concernent la faim et la soif et le désir, donc ce qu'on appelle la gourmandise et la luxure. Et question ? Oui, non, mais ce sont des trésors qu'il ne faut pas gaspiller. Si nous prenons la luxure, c'est-à-dire ce qu'on appelle, je n'aime pas ce mot, la sexualité, c'est un cadeau céleste, la sexualité, donc ne le gaspillez pas,
Vous assimilez la sexualité à la luxure ?
Non, je dis justement, pour ne pas l'assimiler, je dis, c'est un cadeau, ne le gaspillez pas.
Oui, que ça devienne pas
là,
luxure.
Là où il y a un gaspillage, c'est le moment où ce cadeau céleste, qui est ce qu'on appelle, je n'aime pas du tout ce terme, mais c'est ainsi, la sexualité, tout d'un coup, on le gaspille. Voilà. Et surtout, il faut bien voir, il y a un détournement, parce que derrière la sexualité, vous avez la luxure qui vient de lumière. Et au fond, ça veut dire que vous gaspillez la lumière et l'énergie qu'il y a derrière. Ce n'est pas simplement
oui,
le plaisir
Bertrand,
sexuel.
Mais en général, quand les gens ont poil moluxure, ce n'est pas la lumière. Hein. Quand ils l'ont encore, c'est le vice.
Oui, non, mais c'est la débauche.
Voilà, c'est débauche. Voilà. Vous avez raison de dire que c'est dommage, puisque normalement, ça veut dire lumière.
Voilà. Mais normalement, c'est lumineux.
Voilà, je comprends très bien.
Comme tout ce qui est céleste et divin. Et même chose, vous avez quelque chose qui est la gourmandise.
Oui.
La gourmandise, en soi, n'est pas mauvaise. Elle est bonne, elle est délicieuse. Le problème n'est pas tant la gourmandise que le détournement de celle-ci par l'excès.
Et qui fait.
Et derrière, qu'est-ce que ça manifeste? Ça manifeste que si on gaspille, tout ça, c'est quoi? C'est qu'on n'a pas confiance et qu'on se rassure à travers le gaspillage. Et donc, le problème véritable est de savoir pourquoi tu n'as pas confiance. Parce que c'est ça le problème. Hein, on se rassure. Voilà. Un jour, ma mère parlait d'une femme qui était, entre guillemets, nymphomane. Elle disait, ça la rassure de coucher avec tous les hommes. Voilà. Et en fait,
c'est certain qu'il y a un problème psychologique.
Le problème, c'est de la détresse. Le problème, c'est on essaye de dire qu'est-ce que tu essayes de combler. Bon, alors, donc, ça, c'est un des
problèmes. La boulimie aussi, à ce moment-là.
La boulimie, mais tout, voilà. tout ce qu'on appelle les addictions, c'est renvoie à une peur et un manque intérieur en disant, qu'est-ce qui te manque? De quoi as-tu...
ça se rapproche des maladies psychiques, quand
même. Oui, et puis, vous savez, parfois, dans l'excès de nourriture, on a envie de dire, mais qui as-tu envie de tuer? Pourquoi, qu'est-ce qui t'a fait du mal? Et très souvent, vous apercevez que tout ça, ce sont des symptômes pour exprimer une détresse, un chagrin très profond.
Vous avez totalement raison, Bertrand.
Et tout d'un coup, il y a un malheur à la fois affectif, un malheur lié à la mémoire. Et on voit, et donc l'important, c'est de guérir, de permettre à ces êtres de guérir, parce qu'ils peuvent manger, ou alors ils peuvent faire l'amour n'importe comment dans tous les sens, et ça ne les calme pas.
Non.
Vous savez, le capitaine Haddock parle de boire sans soif, en disant, bon, ben, c'est exactement ça.
Oui,
donc,
vous avez raison. Hein.
Et là, je crois qu'il y a une grande sagesse d'un point de vue moral de bien désigner les choses. Et au fond, aujourd'hui, je trouve que souvent la psychologie est très bien faite dans la mesure où on exprime très bien ce genre de détresse. Et ce qui est très beau, c'est qu'elle est sans aucun jugement, aucune condamnation. On ne dit pas... La gourmandise, c'est mal. On ne dit pas la luxure, c'est mal.
Non.
Mais on dit plutôt pourquoi tu te fais mal.
C'est-à-dire qu'on ne se place pas sur le plan moral, mais sur le plan psychologique.
Et sur le plan de la mauvaise morale. C'est-à-dire un tribunal avec des fautes et une punition. Il y a certains aspects du christianisme qui ont été là-dedans. Au-delà du christianisme, il y a le jugement qui condamne. Et ça... ça ne guérit pas.
Non, mais là, je rejoins encore totalement, totalement.
Alors, on revient à la tristesse et à la colère.
Oui.
La tristesse et la colère, c'est autre chose. C'est que là, on n'est plus affaire à des passions qui sont liées au ventre, mais on a affaire à des passions qui sont liées à l'âme. Et qui sont liées à l'âme par rapport à quoi? Ben, en général, c'est la colère et la tristesse par rapport au monde. Et par rapport à la réalité dans laquelle on vit. Et là, on fait une erreur. On fait une erreur, pourquoi? Parce que nous avons tous les moyens de traverser le monde. Et la question est de savoir pourquoi nous nous en faisons à ce point-là. Pourquoi est-ce que ça nous rend triste? Pourquoi est-ce que ça nous rend en colère? Et pourquoi ça nous rend en colère et en triste? Parce que nous sommes toujours en colère contre nous-mêmes et tristes contre nous-mêmes. Hein? C'est-à-dire le monde est le monde. Si je veux vraiment faire quelque chose pour le monde, il faut être fort et non pas être en colère ou triste. S'il n'y a que des gens en colère ou tristes par rapport au monde, on ne fait rien. Donc, et qu'est-ce qui se passe? Il y a des moments où on est triste ou en colère. On sait que c'est une erreur d'être en colère et triste, mais on ne peut pas s'empêcher d'être en colère et triste parce qu'on veut se venger. On veut se venger des autres et on est furieux des autres. Et pourquoi? Et on est furieux des autres parce qu'on est enfermé dans un mécanisme infernal. C'est-à-dire que on est nul face au monde, on s'en veut d'être nul, on est triste et on est triste parce qu'on est en colère parce qu'on est triste et on est enfermé.
C'est un cercle vicieux.
Dans ce cercle vicieux.
C'est un cercle vicieux.
Et donc, je crois qu'il faut arriver à se débarrasser de cette colère et de cette tristesse. Et si on interroge, vous voyez, les Français aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a un scepticisme galopant, alors que nous vivons dans un pays qui est absolument merveilleux et tout. Il y a une tristesse, une colère, et on le voit malheureusement avec toutes les nouvelles sinistres de la vie politique. En permanence, on a affaire à des gens tristes, à des gens en colère, et à des gens qui sont brouillés avec le monde. Et ça, c'est comme ça qu'on rentre dans une machine à souffrir et à se faire souffrir. Voilà.
Oui, c'est exact.
Et j'aime beaucoup les stoïciens, la sagesse des stoïciens consiste à congédier la tristesse et la colère en disant, écoute, a priori, on va décider que le monde est bien fait et on dit oui à ce monde qui est bien fait. Et on ne veut plus entendre parler de la colère et de la tristesse.
Oui, moi aussi, j'aime les stoïciens.
C'est difficile parce que je crois qu'il y a l'idéologie ambiante qui nous domine, considère qu'on va bien à partir du moment où on est en colère et que si on est, si on n'est pas en colère, ben ça ne va pas. Voyez. Ça fait penser à des interviews où on dit « Alors, Madame Prête, n'est-ce pas que vous êtes en colère ? N'est-ce pas que ça ne va pas ? » Alors, vous vous croyez obligé de dire que ça ne va pas parce que la question vous a demandé... On ne vous a pas demandé à propos de quoi vous êtes en colère.
Oui, vous annonce que vous
Que vous confirmiez le fait que vous êtes comme tout le monde, vous êtes normal, vous êtes en pleine santé, vous êtes en colère.
Bon, ceci dit, on peut être en colère contre plein de choses dans le monde, en théorie.
Oui,
mais ce n'est pas la peine de le faire payer aux autres.
Mais il y a colère et colère.
Voilà, exactement.
Vous voyez, vous avez des gens qui peuvent vous dire très calmement, je suis très en colère par rapport à ce que tu viens de dire, et expliquer pourquoi.
Voilà. Vous voyez. Oui, mais enfin là, vous comprenez, vous parlez d'un point de vue de quelqu'un qui a un grand équilibre. Voilà. Donc vous avez raison de mettre l'accent sur l'équilibre en premier.
Mais regardez, je suis désolé de citer son nom, mais le regretté Seguin était célèbre pour ses colères. Et dans des colères, il lui arrivait de balancer une télévision par la fenêtre.
Oui.
Vous voyez, donc, il faut faire quand même attention.
Bah oui,
parce qu'à un moment, on peut tuer quelqu'un.
On ne s'appartient plus dans la grande colère.
On ne s'appartient plus. Et c'est une folie.
Ah oui, c'est une folie.
Et c'est addictif, la colère.
Ah,
et
vous
en
avez
plus, il y a des gens qui ont pris l'habitude d'être en colère et ils n'arrivent plus à se séparer. Et l'autre jour, j'en discutais avec une amie et elle m'a dit, il y a quelqu'un au bureau qui est en colère systématiquement, il pourrit l'atmosphère de ce... Parce qu'en plus, c'est un dirigeant, donc on ne sait pas comment agir.
C'est pas agréable pour les autres. Hein.
Ah, c'est épouvantable.
C'est quelqu'un qui... Comme je crois aux ondes,
c'est invivable.
Je ne pourrais pas vivre avec quelqu'un qui serait comme ça.
Ah oui, moi je ne les crois pas, je les vis, les ondes. Et vous avez des mauvaises ondes, des basses énergies.
Je quitte la pièce.
Et on se sent mal.
On se sent très mal.
On se sent très mal.
Alors qu'avec d'autres personnes, on se sent très bien.
Par exemple, moi avec vous.
On le dit en même temps. Voilà. On le dit en même temps.
Ah, oui.
Oui, moi avec vous, je me sens très bien. Alors vous avez écrit, Bertrand, « Qui ne s'émerveille de rien, ne s'attriste de rien. »
Oui.
Je vous dis, je ne suis pas tout à fait d'accord car il y a des personnes ne s'émerveillant de rien, mais s'attristant de tout. Ça existe aussi. Et pourtant, je devine que vous pensez cela sans doute en un autre sens.
Oui, tout à fait.
Mais je vous laisse continuer.
C'est-à-dire que moi, j'explique qu'à la racine de la tristesse et de la colère, il y a la question de l'émerveillement. Et c'est pour ne pas penser que l'émerveillement... n'a aucun sens du tragique, l'émerveillement n'a aucun sens de la tristesse ni de la colère. Et je crois que la racine des choses, c'est l'émerveillement. L'émerveillement, c'est le fait ontologique de l'existence inouïe qui est la nôtre. Et je pense que quand on est triste, c'est parce qu'on est triste de cette merveille qui consiste dans l'émerveillement et qu'on n'en fait rien. Et je pense que ce n'est pas parce que je suis émerveillé que je ne suis pas triste, c'est parce que je suis émerveillé qu'il m'arrive d'être triste en voyant ce que l'on fait de la merveille et de l'émerveillement. Voilà, c'est pour ça que j'ai expliqué ça.
Vous reconnaissez quand même qu'il y a des personnes qui ne s'émerveillent de rien.
Il y a des personnes, et je trouve que c'est une forme de paresse d'esprit, et j'aime ceux qui disent, ou celle qui dit tu pourrais quand même t'émerveiller un peu.
Oui, enfin.
Bon, et puis, si ça ne te dérange pas, tu pourrais quand même regarder ta femme. Non, d'abord, tu pourrais regarder tes enfants et éventuellement te regarder ta femme. Et regarde-la bien parce qu'elle ne va pas toujours être là si tu continues de ne jamais la regarder et de ne jamais t'émerveiller.
Bah ça, c'est voilà. Sûr, mais elle doit le savoir depuis le début.
Et hein. Malheureusement, le nombre de femmes dans des couples qui le savent et qui souffrent de cette attitude. Parce qu'à un moment, il y a ces choses qui m'ont toujours fait de la peine. C'est des femmes qui disent « mon mari ne me regarde plus ». Ça, c'est tragique. C'est absolument tragique. Et donc, voilà, oui, moi, je crois que tout vient de l'émerveillement. Et alors, j'ai compris quelque chose à propos de l'émerveillement, parce que vous allez être très contente de ce que je vais vous dire. Je suis allé à l'abbaye Tamier, dans Savoie,
oui.
Parler à des pères cisterciens pendant 4 jours de l'émerveillement.
Dernièrement ?
Oui, j'étais la semaine dernière. J'ai passé 4 jours merveilleux
oui.
Avec des moines d'une très grande simplicité et vivant ce que j'aime beaucoup, cette discipline monastique tellement concentrée, tellement merveilleuse et tout. Et alors là, j'ai compris quelque chose sur l'émerveillement que je n'avais jamais compris. J'ai compris qu'on a 3 regards. Premier regard est un regard pratique. On regarde, on voit les choses avec des yeux et on reçoit des informations. Le deuxième regard, c'est le regard du cœur humain. Et le cœur humain est capable de voir les choses de cœur à cœur et pas simplement avec les yeux. Et puis, il y a un troisième regard qui n'est ni matériel ni humain, c'est le regard qui vient d'ailleurs. Et le regard qui vient d'ailleurs, c'est ce qui se passe quand vous avez un regard dans le regard en découvrant une vie dans la vie. C'est-à-dire, il y a un moment, ce n'est pas vous qui regardez, ça regarde au-delà de vous et au-delà de la réalité. Et c'est ce regard qui va au-delà. Et quand vous vous émerveillez de ce regard.
C'est comme un regard divin, ce que vous citez.
Oui, et tout d'un coup, vous avez découvert la vue. Et alors, quand Raphaël Enthoven m'avait invité, il avait montré un enfant qui était sourd et on lui rend l'audition, il est émerveillé. Et je crois que maintenant, ça, l'émerveillement, bien évidemment, je n'ai pas entendu et je peux entendre, mais il n'y a pas que cet émerveillement-là. Il y a aussi le fait de n'avoir jamais entendu en profondeur et d'écouter et d'entendre pour la première fois le fait que j'entends. Et je crois que vous voyez
oui,
là...
Oui, je vois la différence.
Là, nous avons le regard divin. Et là, nous comprenons ce que le Christ veut dire quand il parle de la nouvelle naissance. C'est-à-dire rentrer dans le regard fondamental pour voir les choses célestes et divines. Le regard dans le regard et la vie dans la vie.
Pardonnez-moi. Vous pouvez quand même remercier, vous, le Christ, de vous avoir donné ce
oui,
regard-là.
Oui.
Vous ne pouvez pas dire que tout le monde l'a, c'est impossible.
Écoutez, tout le monde ne l'a pas. C'est-à-dire, en théorie, tout le monde peut l'avoir.
Non,
personne
n'en croit pas.
Mais personne n'en est exclu, a priori.
Ah oui, bien sûr, voilà. Bien sûr.
Ensuite,
on peut pas dire ça.
Vous avez une inégalité dans la vie. Certains ont ce regard parce qu'ils l'ont cultivé. Et d'autres ne l'ont pas encore parce qu'ils sont, ils ne savent pas, on ne leur a pas enseigné, ils n'ont pas écouté, etc.
On n'a pas enseigné. Vous avez quand même des différences de profondeur chez un être.
Oui, 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 oui. Oui. Non, mais vous pouvez, vous pouvez apporter tout l'enseignement du monde à certaines personnes, ils ne bougeront pas.
Non, parce qu'ils ne peuvent pas bouger.
Ils ne savent pas, ils ne peuvent pas. Enfin, c'est tout un ensemble. On ne va pas.
Non, c'est un ensemble.
C'est voilà, voilà.
Vous avez raison, c'est un ensemble. On passe à l'autre question. Au sujet de l'avare,
oui.
Vous écrivez quelque chose de si vrai. On peut tuer l'esprit sans aller en prison. On tue la vie, c'est terrible, mais éclairez-nous encore un peu plus. Dites-nous comment vous l'avez si bien montré dans ce livre « La vraie morale se moque de la morale ». Je répète édition Guy Trédaniel. Ce qui signifie pour vous « tuer l'esprit ». Oui, redites-nous ce que signifie pour vous « tuer l'esprit », d'autant que vous assimilez l'esprit avec un « e » majuscule, et la vie.
Oui. Alors ensuite, on rentre dans les passions de l'esprit. Il y a les passions du corps, c'est-à-dire, d'une part, on a parlé de la gourmandise et de la luxure, les passions de l'âme, la tristesse et la colère, et attention, vous avez les passions de l'esprit qui sont la jalousie, l'avarice et l'orgueil. Alors qu'est-ce qui caractérise l'avarice ? L'avarice est une forme, c'est le crime parfait. C'est, vous pouvez tout tuer par l'avarice. C'est-à-dire, l'avare, c'est quelqu'un qui pense que tout est trop cher. Et si par hasard, donc il veut ne rien payer, mais il veut se faire payer pour toute chose, et même si vous payez un avare pour recevoir quelque chose, il trouvera que c'est encore louche et que vous voulez l'avoir par cela. Ce qui fait qu'à un moment, l'avarice, rien n'est jamais assez beau. Et il tue tout derrière un faux ascétisme, une fausse sagesse. C'est-à-dire, bien sûr, il y a du gaspillage. Mais qu'est-ce que fait l'avare ? L'avare, c'est quelqu'un qui gaspille le fait de ne pas gaspiller et qui en fait une orgie de vertu. Parce que si vous prenez l'avare de Molière, vous apercevez qu'il juge tout le monde. Tout le monde, personne ne trouve grâce à ses yeux. Les choses ne sont pas assez belles, les choses ne sont pas assez bien vécues, pas assez riches. Et par là même, il désespère tout le monde. Vous voyez ? Donc l'avare est terrifiant. Et derrière, vous avez l'impression, c'est un faux sage, c'est un faux vertueux, c'est un faux ascète, tout est faux, voyez. Et donc, c'est ça qui apparaît. Et dans la société capitaliste qui naît au XVIIe siècle, Molière voit très bien que vous avez celui qui va dépenser, le nouveau riche, et vous avez celui qui ne va pas dépenser et qui est une autre forme de nouveau riche. Et il dit, ce qui menace la société qui est en train de se construire, ce n'est pas simplement ceux qui veulent flamber comme Don Juan, toutes les femmes, mais quelqu'un qui va faire l'inverse. C'est-à-dire, ne surtout pas flamber et empêcher tout les le monde autres. De flamber. Et finalement, tuer la vie autour de lui. Et alors, tuer dans la vie, quoi. C'est-à-dire, la vie passe par l'émerveillement devant la vie. Qu'est-ce que c'est que l'esprit ? L'esprit, c'est l'intelligence, mais c'est plus que l'intelligence, c'est la générosité et le génie. C'est-à-dire que c'est l'intelligence qui aime et qui est capable de rendre tout le monde intelligent et de donner de l'amour à tout le monde par cette intelligence capable d'aimer.
Mais voilà. Il tue aussi la joie des autres, hein, l'avare.
Il empêche tout.
Il tue la joie des autres.
Et il tue la joie des autres. Et donc, il y a, en ce sens, c'est terrifiant.
Ça, je vois. Alors, vous avez écrit « Il y a du génie dans le fait de vivre ». La phrase est forte. Et merci de nous dire pourquoi. Pourquoi il y a du génie et d'où vient ce génie ?
Alors, le génie est un génie céleste qui s'exprime par le génie terrestre. Le génie, c'est quelque chose qui est enthousiasmant de créativité, d'intelligence, de générosité et de capacité de faire surgir toutes ces vertus de là où on n'aurait jamais pensé qu'elles viennent. Donc, ça veut dire intelligence, générosité, enthousiasme, mais surtout, là, on ne les aurait jamais imaginées. Et donc, qu'est-ce que je trouve extrêmement important ? C'est d'avoir ce sens comme quoi, fondamentalement, la vie est géniale. Et là, je parle... Alors, je fais la distinction entre ma vie et la vie. Tout le monde, on ne peut pas dire... bien évidemment, beaucoup de gens ont des épreuves très difficiles. Je comprends très bien qu'ils disent « ma vie n'est pas géniale ». Mais ce n'est pas parce que ma vie n'est pas géniale que ça, la vie s'arrête. Hein. Et ce qui est formidable et qui est génial, c'est que parfois ma vie n'est pas géniale, mais je n'ai pas perdu le goût de la vie et le sens de la vie.
J'apprécie le fait que vous fassiez la différence.
Et je suis capable d'aller au-delà. Et c'est ce que dit Ethel Soum dans son camp de concentration quand elle dit c'est la admirable. Vie est belle, et je dirais que la vie est belle. Les camps de concentration ne sont pas beaux. Dans sa vie, ça pourrait quand même être mieux.
Mais jusqu'à la fin,
il n'empêche qu'elle a en elle ce sens. Elle n'insulte pas la vie. Et au milieu de tout cet enfer qu'elle vit, elle est capable de voir un rayon de soleil, un peu un arbre qui frissonne au loin.
Ah, je l'ai beaucoup aimée. Elle est excessive en tout.
Oui.
Mais elle est excessive en tout, hein. Elle n'est pas pour la mesure. Hein. Les cigarettes, les hommes, elle n'est pas dans la mesure.
Mais elle est
vivante. Formidable.
Elle est vivante.
Elle est totalement... Voilà. Je l'aime beaucoup. Je l'ai pas
connue. Et donc, moi, ce que j'aime, c'est le sens de la vie. Et le sens de la vie m'a toujours aidé. Vous voyez, quand j'étais jeune, on avait très peur pour ma vue, que je perde la vue. Et j'ai toujours été aidé par une force de vie formidable. Et j'ai toujours été aidé par ma mère,
oui,
qui avait un sens formidable de la gaieté et de la vie.
Elle vous a légué quelque
chose. Et elle m'a appris à honorer la vie tous les jours et tout le temps, quoi qu'il arrive. Et cette capacité de voir la vie au milieu des difficultés donne véritablement l'humour, l'essence de l'humour. C'est capable de retourner les situations et de renverser le
c'est
tragique.
C'est de l'or, hein, ce qu'elle vous a offert.
Et, ça, c'est de l'or en bas.
Elle était comme ça.
Ah oui, oui, oui. Elle était vivante et donc elle a eu toutes sortes de difficultés. Mais elle avait cette capacité de rire au milieu de ses difficultés et de faire rire les êtres au milieu de leurs difficultés.
Et vous étiez dans cette ambiance comme on est dans un parfum, vous l'avez respiré pour toujours.
Oui, oui, j'ai reçu une leçon de philosophie permanente
c'est ça.
De ce sage qui s'appelait ma mère et qui avait ce sens de la vie et de la gaieté.
Et ce caractère magnifique.
Et elle me parlait d'honorer les choses. Il faut honorer les moments de vie. Et quand on a un succès, il faut honorer le succès. Et quand on a un moment agréable, il faut honorer ce moment agréable. Voilà.
Ça,
c'est absolument génial.
Je pensais ce qu'elle vous disait. Voilà. Je trouve ça formidable.
Et ça, c'est l'essence de la sagesse, l'essence de l'humour. Et c'est ça qui est génial.
Elle vous a imprégné, hein, quelque part.
Oui, parce que... Et tant mieux.
Non, mais moi, je pense à votre mère souvent maintenant.
Ben oui.
Avec affection, je ne vais pas dire amitié, on ne se connaît pas assez.
Ah, mais vous l'aimez.
Mais affection et considération. Hein.
Vous l'aimez beaucoup.
Vous
êtes rencontrés.
Oui, on s'est rencontrés. Ah oui, non, mais ça, j'y crois.
Et vous êtes allé là.
Je crois au lien entre le ciel et la terre. Parce qu'il y a les habitants d'en haut et les habitants d'en bas.
Mais les morts sont là. Les morts ne sont
pas morts. Mais non, ils ne sont pas morts. Enfin, pour moi, ils habitent ailleurs.
Et ils sont présents.
Quand ils veulent.
Ils sont présents.
Quand ils veulent.
Et surtout dans un espace de vie qui n'est absolument pas triste, mais qui est extrêmement calme et réconfortant et fort.
Ouais. Ah oui, mais c'est évident. Non, mais pour moi, je sais très bien que je vois le ciel comme la terre. Hein.
Oui, oui.
Sans les larmes, sans les larmes. Ils sont là-haut. Quand je lève ma coupe de champagne vers eux, parce que j'aime dire que je parle beaucoup de champagne, j'en bois moins que... En fait, j'en bois pas souvent. Mais j'aime bien, hein.
Oui, oui.
De temps en temps, je m'en ouvre même une petite, même quand je suis seul.
Oui.
Mais une demi. Mais je veux dire que je lève ma coupe vers le ciel, mais ce n'est pas de la frime. Ah non, ce n'est pas parce que je pense à eux, c'est parce que je sais qu'ils
sont là. Ils sont là.
Non, ils sont là-haut. Oui, mais il y a un mystère qu'on ne connaît pas. On peut très
tout
bien.
Tout en étant là-haut, ils sont là. Voilà.
Ils vivent.
À la tienne.
Rappelez-vous le Christ, qui préparait même ressuscité les poissons au bord de la rive et le pain. Venez manger, mes petits enfants.
Oui.
Bon, bah, il est pareil en haut. Hein.
Voilà.
Voilà. Alors, Bertrand.
Merci.
Bertrand, quand vous affirmez que de ne pas vivre ou de ne pas être généreux ou de ne pas aimer, c'est rater sa vie, on n'a pas le droit de la rater, écrivez-vous encore. Oui, quand vous dites cela, c'est tout simplement formidable. Vous ne parlez pas des péchés comme en parlent les autres. Là, je suis dans les compliments. Hein. Vous ne parlez pas des péchés comme en parlent les autres. Vous allez à l'essentiel et montrer que le péché n'est pas ce que l'on croit. J'ai applaudi vos idées à ce sujet et votre manière de penser. Je vous laisse la parole pour redire ici que péché, c'est se faire des croche-pieds. C'est lutter contre soi, contre les autres et contre la vie. Oui, continuez Bertrand Vergely. De nous dire pourquoi. Croche-pied, c'est très bon. Hein.
Il faut revenir... alors ça, c'est vous qui l'avez dit.
C'est moi qui l'ai dit ?
Oui, c'est vous, et vous avez raison.
C'est pas vous qui l'avez dit ?
Non, mais c'est très bien.
Si je ne sais plus maintenant. Oui, ça c'est grave.
Je comprends. Alors, oui. Je crois qu'on confond le péché et la faute. Et ce n'est pas du tout la même chose. Et ce qui est très ennuyeux, c'est de prendre le péché pour une faute. Le péché veut dire rater la cible. La faute veut dire transgresser une règle. Je vais vous donner un exemple très simple. Au football, si vous touchez le ballon avec la main, vous faites une faute et vous êtes sifflé par l'arbitre parce que c'est interdit de toucher le ballon avec la main. Mais si en tant que sportif, vous ne vous entraînez pas, vous péchez. Être un sportif,
c'est clair.
Ça veut dire qu'il faut faire deux choses. Premièrement, il faut respecter les règles. Et deuxièmement, il faut respecter l'esprit du sport et la règle de vie à l'intérieur du sport. Et donc, l'un va souvent avec l'autre. À force de vivre n'importe comment, on joue n'importe comment et on fait n'importe quoi. Et donc, parce qu'on pêche, on finit par commettre des fautes. Mais, il faut bien voir, jouer avec la main, toucher un ballon avec la main, ce n'est pas un péché. Et ne pas s'entraîner, ce n'est pas une faute. C'est deux choses complètement différentes.
C'est une alliance.
Et donc, je pense, et on le voit très bien, si on prend la Bible, on s'aperçoit que le péché est une chose, la faute en est une autre. C'est-à-dire, le péché veut dire avoir rompu le lien avec l'esprit de la vie, qui est l'esprit céleste et divin de la vie. La faute, c'est Caïn qui tue Abel. Et la Bible ne commence pas par le meurtre. Il n'y a pas de meurtre inaugural dans la Bible. Et c'est ce qui distingue la Bible des autres textes. René Girard dit que dans les mythes, il y a un meurtre fondateur. Dans la Bible et dans le christianisme, il n'y a aucun meurtre fondateur. Ça n'existe pas. La seule chose qui est fondatrice, c'est la joie de la création. Et ce que l'on entend par péché, c'est le fait de s'éloigner de cette voie en n'écoutant plus la signification profonde des commandements célestes qui sont donnés. Et donc voilà, moi je crois que il faut revenir au péché. Et je suis frappé de voir que malheureusement dans un certain nombre d'homélies et tout, il y a une confusion complète entre le péché et la faute. Et y compris dans l'Église orthodoxe, j'ai l'impression qu'il y a des orthodoxes qui n'ont pas du tout compris ce que ça voulait dire. Et ils se trompent complètement. Donc voilà. Et je trouve formidable de la part de la Bible et du christianisme d'avoir introduit la notion de péché pour repenser effectivement la faute. Et de voir quoi ? Que c'est introduire la notion de péché veut dire que pour comprendre les fautes, on ne va pas sanctionner par la punition, on va essayer de comprendre ce qui s'est passé dans l'état d'âme et d'être pour en arriver là. Et donc, et d'apercevoir que s'il y a faute, ce n'est pas simplement qu'il y a faute, c'est qu'il y a quelque chose qui a péché pour en arriver là. Et ça, et alors, la langue française parle très bien, puisqu'on parle toujours de péché par excès ou par défaut. Oui. Donc, on n'est pas dans l'équilibre. Et qu'est-ce que c'est que d'être dans l'équilibre ? C'est une expression très à la mode aujourd'hui, mais que j'aime bien et qui me paraît juste. Ce qu'on appelle être aligné et avoir à un moment cet équilibre corps-âme-esprit qui est lié en nous entre l'équilibre qu'il peut y avoir entre le nombril, le troisième œil et entre les deux yeux et puis le lotus au-dessus de la tête. Et tout d'un coup, on est aligné. Là, ça me paraît très important. Et l'état de péché, dans cet état, c'est un état céleste. Ce n'est pas simplement vous qui vivez en vous, c'est la vie divine qui vit en vous. Et c'est dommage de ne pas vivre cette vie. Et vous pouvez la vivre en étant très harmonieux, très équilibré, et en écoutant ce qui vient de votre cœur. Alors, à ce titre-là, j'ai fait une très belle découverte. Et vous qui êtes philosophe, vous l'apprécierez. En fait, je viens d'écrire un petit ouvrage dont nous serons amenés à parler sur la philosophie et je suis parti de Pythagore. qui est le premier des philosophes. Et alors, pourquoi est-ce que Pythagore était le premier des philosophes? Parce qu'il pensait de la manière suivante. Il dit, lorsque l'humanité me fait penser à une troupe qui va à une panégyrie, certains y vont avec des arrière-pensées lucratives et des pensées cupides, d'autres y viennent pour faire étalage d'eux-mêmes, et seule une minorité vient aux panégyries, pour les panégyries, pour la beauté des choses qui s'y font et l'excellence des choses qui s'y disent. Et là, nous avons quoi? Bien, la leçon de sagesse que vous trouvez dans toutes les traditions spirituelles, quand tu vas à une fête, tu vas à une fête. Thich Nhat Hanh, un grand penseur bouddhiste, disait « Quand tu manges, tu manges. » Quand tu bois, tu bois. Quand tu es là, tu es là. Et alors là, ça devient intéressant. Pourquoi? Parce que ça s'exprime par l'entendement. Et l'entendement, c'est notre faculté rationnelle qui vient de l'harmonie, de l'entente de nos pensées, de nos paroles, de nous par rapport aux paroles, de nous par rapport aux autres, de nous avec la vie. Et là, on crée de l'entendement. Là, on ne pêche pas. Là, on est dans l'équilibre.
Oui, je comprends.
Vous voyez ?
Oui, je vois.
Vous appréciez cette émission ? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Alors, maintenant, je n'hésite pas à vous faire part de certaines de mes découvertes.
Mais j'en suis heureuse et honorée.
Merci.
Alors, vous faites un... Non, mais ça, j'avais posé la question la fois d'avant. Je vais passer à la jalousie. On va en parler. Vous dites qu'elle fait partie, comme l'avarice et l'orgueil, des passions de l'esprit. Ne pensez-vous pas qu'elle est liée à la psychologie où placez-vous la psychologie par rapport à l'esprit? Parce que, vous voyez ce que je veux dire?
Oui.
Voilà. Par exemple, c'est vrai, vous placez la jalousie dans les passions d'esprit.
Alors,
mais elle est liée à la psychologie. Donc, je me demandais à quel degré vous passiez la psychologie par rapport à l'esprit.
Alors, vous avez la psychologie, c'est un problème d'âme et d'équilibre d'âme. L'esprit, c'est un problème de pensée.
Voilà.
Alors, et donc, la différence qu'il y a, c'est qu'à un moment, il faut s'occuper de votre âme et à un autre moment, vous occuper de votre pensée. Bon. J'ai été professeur.
Oui.
Il y a des élèves qui écrivent n'importe comment ou n'importe quoi.
Oui.
Là, il faudra leur dire, écoutez, je crois que vous avez un problème psychologique. Revenez, réglez ce problème pour revenir étudier correctement. Ça s'est vu, puisque je suis allé beaucoup au Mont Athos, c'est la même chose dans la vie spirituelle.
Oui.
Vous avez des gens qui sont perturbés. Et pas simplement pour des raisons métaphysiques, mais c'est parce qu'ils ne sont pas équilibrés. Il faut leur dire, écoutez, soignez-vous, et puis quand vous serez en forme, vous pourrez revenir dans le monastère. Bon, ça peut être dit pour tout. Pour toute chose, vous avez des choses sérieuses. Mais vous avez des choses sérieuses parce que les gens font des erreurs dans la manière de vivre sérieusement, et d'autres ont un vrai problème à régler. Et donc, il faut avoir le fait de dire à des moments, aller voir un psychologue et non pas un philosophe.
Donc, c'est vrai que l'importance de la psychologie est primordiale.
Et moi, en tant que philosophe, je ne suis pas là pour régler les problèmes psychologiques. Ouais, il faut un dialogue avec des psychologues qui vous aideront. Vous voyez ?
Oui, je comprends bien. Bon. Donc, elle est première quand même.
Et donc, vous avez une jalousie pour des raisons psychologiques. Et vous avez une jalousie pour des raisons métaphysiques, spirituelles et profondes. Vous voyez ?
Comme quoi ?
Ben par exemple, vous avez le phénomène de la jalousie qui est la volonté, premièrement, de prendre ce que l'autre a et deuxièmement, la peur de donner ce que l'on a. Donc là, c'est extrêmement intéressant parce qu'on s'aperçoit que là, ce n'est pas simplement un problème, c'est pas un problème psychologique. C'est un problème philosophique parce que c'est un problème de tentation.
D'accord.
C'est-à-dire qu'à un moment, il y a quelqu'un qui va tout d'un coup être dans ce que René Girard appelle la rivalité mimétique. Parce qu'un autre a quelque chose, Il va vouloir avoir ce que cet autre a. Mais là, c'est quoi? C'est pas simplement un problème de manque et de frustration, c'est qu'il y a quelque chose qu'il n'a pas compris. Qu'est-ce qu'il n'a pas compris? Il n'a pas compris qu'il a tout et qu'il n'a pas à désirer ce que l'autre a, étant donné qu'il a tout. Et donc, il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une ignorance et pas simplement d'un problème psychologique.
Même s'il y a un sentiment d'infériorité quelque part, dans le fond de ce que vous dites.
Autre chose. Non.
C'est encore autre chose.
Non, c'est encore autre chose. Il y a la volonté d'avoir tout et de ne pas comprendre qu'on a déjà tout. Et ça, c'est seul une expérience philosophique et un état philosophique peut régler la question.
Oui.
C'est, vous savez, tout l'exercice des sagesses consiste dans le détachement. Et le détachement, c'est ce qui se produit quand j'ai compris que je n'ai pas besoin d'avoir ce qu'un autre a, parce que je remercie le ciel d'avoir tout en moi. Ça, ça s'appelle la sagesse. La caractéristique de la sagesse, c'est que le sage n'est jamais frustré. Le sage, et pourquoi? Parce qu'il a une idée juste du divin. C'est parce qu'il a une idée juste de lui-même. Vous voyez?
Oui.
Et alors, on le voit très bien
avec l'orgueil.
Les stoïciens.
Oui, comme la, oui.
Le sage est capable de tout traverser, les épreuves, le mépris, l'adversité. Oui. Et il n'en veut ni au monde, ni aux hommes, ni aux dieux. Il en veut à personne. Et pourquoi? Parce que il a l'expérience de la béatitude que donne la pensée juste. Et là, c'est pas un problème dans la vie personnelle, c'est la manière philosophique de voir les choses.
Qui se rapprocherait quand même d'un équilibre, là, divin.
Exact. Et vous apercevez que quand il y a des erreurs qui sont faites philosophiquement et métaphysiquement, eh bien, ça génère des problèmes qui sont pratiques d'abord, avant d'être psychologiques. Et donc, il y a quelque chose qui relève de l'ignorance, et il y a quelque chose qui relève de la maladie. Et il y a quelque chose qui le montre. Certaines pensées vous ont rendu profondément heureuse et vous ont libéré. Et c'est pas simplement vous en tant qu'Isabelle, prêtre, avec votre psychologie. C'est votre être qui a été libéré. C'est tellement joyeux, c'est tellement juste. On dit, mais pourquoi je n'avais pas vu la vie comme ça? Mais c'est incroyable, c'est fantastique. Et la seule chose qui est importante, on ne peut rien vous enlever. Donc n'ayez peur de rien, vous êtes dans l'être, vous êtes soutenu par l'être, et rien, et ni personne, ne peut que quelque chose contre vous fondamentalement. Et ça, c'est très important. L'autre jour, j'ai une amie qui m'appelle et elle me dit « Écoute, est-ce que tu peux parler à mon mari parce qu'il a eu des très mauvais examens ophtalmologiques, il a peur de perdre la vue. » Et je lui ai dit « Écoutez, il n'y a qu'une seule philosophie de la souffrance, dire oui absolument à tout ce qui arrive. Vous allez avoir un examen ophtalmologique, peut-être une opération. Si vous récupérez la vue, c'est bien. Et si vous êtes aveugle, c'est bien. Tout est bien. Tout sera bien, quoi qu'il arrive. Et si vous êtes capable de prendre les choses ainsi, vous allez pouvoir tout traverser. Pourquoi? Parce que vous êtes vivant, parce que vous avez des tas de choses en vous et que vous voyez, c'est
l'extrême. Je vois surtout que vous êtes unique, parce que ce que vous dites, c'est sublime.
Et regardez, j'ai une élève qui a perdu l'usage de ses jambes après un accident de voiture. Ah, elle travaillait au poste, la voiture est allée dans le fossé, elle a perdu l'usage de ses jambes. Et le médecin est venu la voir en disant, Mathilde, tu as marché avec des jambes, maintenant tu vas marcher autrement. Là, il a tout compris.
Oui, voilà.
Tu vas continuer à marcher.
L'adaptation complète.
Et il faut dire, tu sais, tu vas peut-être perdre la vue, mais tu vas voir autrement. Et tu vas peut-être voir des choses que tu n'aurais jamais vues. Et voilà.
Oui, je comprends très bien voyez, au-delà des mots. Je comprends au-delà
mais
des mots.
Bien évidemment, il faut le temps de l'assimilation. Oui. On ne peut pas demander à quelqu'un qui va perdre la vue du jour au lendemain de dire tout ça, c'est bien. Non, non. Vous pouvez avoir des confessions d'aveugles, de gens qui ont perdu la vue.
Très magnifique.
Et des choses absolument stupéfiantes. J'ai un ami qui a perdu la vue, qui est psychologue. Il dit,
il voit des choses
je vois des choses maintenant que je ne voyais pas auparavant. Et en particulier, je vois directement l'état des patients qui viennent me voir, parce qu'il a continué sa pratique. Et donc, la vie est extraordinaire et ne vous abandonne jamais. Voyez. Dernière chose, il y a une chose qui m'a absolument stupéfait, bouleversé. C'est dernièrement le témoignage d'un des prisonniers du Hamas à Gaza qui est resté pendant 2 ans à 40 mètres sous terre dans une espèce de réduit. Et il a dit, mais magnifique, le visage magnifique, lumineux et tout. Et il a dit, quand je suis rentré dans ce réduit, j'ai vu une énorme lumière qui n'a pas arrêté de m'accompagner. Et alors là, et donc, au fond de ce réduit, il y avait la lumière. Vous voyez ?
Ah oui, je vois très bien.
Mais c'est tout le message de Pierre Soulages.
C'est une grâce particulière.
Pierre Soulages peint le noir pour nous dire il n'y a pas plus lumineux que le noir.
Oui, mais enfin, à ce prix-là, je vais vous dire, je préfère que vous me fassiez un dessin sur la table, là, maintenant. Hein.
Bon, on ne sera pas d'accord. Non, jamais.
Soulages.
Moi, j'adore.
Je vais vous faire un tableau comme ça.
Oui, maintenant. Oui, on va fermer la parenthèse.
Je suis nul.
Oui, oui.
Je suis nul, mais je vais vous faire un tableau.
D'accord.
Tout noir. Hein.
Très bien.
Ça vous plaît ?
Voilà. Bon, mais cela dit...
Je vous en fais un autre. Hein, vous.
Et donc, cela dit, vous voyez...
Oui.
Ce qui est beau dans la jalousie, c'est de dire, tu n'as pas à être jaloux, tu as tout en toi, il y a un être
je
unique
rejoins,
en toi.
Je rejoins, mais pour parler comme vous, il faut déjà avoir un esprit qui vous ressemble, même s'ils sont rares, qui vous ressemble à mes
Ah, ça se travaille, ça se cultive.
Oui, mais ceux qui ont envie de cultiver l'esprit ont déjà un assez grand esprit. Oui.
J'ai eu ma mère qui m'a appris.
Oui, mais elle était un grand esprit.
Un grand esprit.
Voilà.
Attends.
Mais un petit esprit, il ne va pas comprendre même.
Ah,
vous
avez
vous
des gens, ils vont croire que je suis complètement illuminé.
Oui,
ça, c'est sûr.
Ah, vous êtes illuminé, mais dans le bon sens du mot. Dans le bon sens du mot.
Oui, oui.
Hein? Bon, alors, la jalousie, donc, on en a parlé. Je ne pose pas ici de questions. J'émets juste un jugement.
Oui.
Vous avez écrit sur l'amour, page 90.
Oui.
Des passages magnifiques.
Oui.
Je laisse les futurs lecteurs les découvrir. Mais si je vous demandais de me définir en peu de mots ce qu'est pour vous le véritable amour, quelle serait votre réponse ?
Je ne peux pas vous répondre.
Ah, bah c'est une réponse.
C'est impossible de répondre.
Réponse.
C'est tellement extraordinaire que je ne peux que vous dire, là, quand quelqu'un vous aime, c'est extraordinaire. Quand vous-même vous aimez, c'est extraordinaire. Alors là, je peux vous dire une chose en termes d'expérience.
Oui.
Je pense avoir fait une expérience de l'amour céleste sous la forme de la douceur. Mais d'une douceur dont vous n'avez pas imagination dans le cœur. Dans le cœur, un fleuve de douceur.
Mais quand vous l'avez fait.
Mais ça à plusieurs reprises.
À plusieurs reprises.
Oui, parfois, comme je priais la prière du cœur, je me réveillais, j'étais réveillé au milieu de la nuit, et je sentais un fleuve de douceur dans le cœur. Mais parfois... Tout simplement dans l'expérience de la prière que j'essaye de pratiquer plusieurs fois par jour. Et il y a des moments, mais c'est absolument ineffable. Et donc la présence divine est là, et elle est la douceur même, mais une douceur...
Et vous êtes tout seul.
Je suis tout seul, et tout d'un coup, la présence est là. Et donc, si vous voulez, l'important, vous voyez, pour définir l'amour, c'est qu'on ne peut pas le définir. C'est qu'on peut le recevoir.
C'est une très belle réponse.
Voilà.
Vous m'avez répondu, c'est une très très belle réponse.
Et j'aime cette chose parce que c'est plus fort que moi, c'est tellement beau. C'est tellement beau. C'est tellement... Voilà, c'est ce que je peux vous dire.
C'est la plus belle réponse. Alors, vous m'avez parlé des trois amours. Enfin, vous m'avez parlé.
Oui.
Maintenant, je deviens mégalo.
Oui.
Vous avez parlé dans le livre
oui.
des trois amours qui sont des illusions, de folles illusions. C'est ce que vous dites de l'amour.
Oui.
L'amour possessif.
Oui.
L'amour de ce que l'autre possède, c'est-à-dire l'envie, là, vous en avez parlé. Oui. Vous en avez parlé tout à l'heure.
Oui.
Mais une question surgit en moi. Pourquoi parlez-vous d'amour quand vous parlez de l'envie, qui est juste, selon moi, une jalousie ?
Mais parce que je parle du détournement de l'amour.
Ah.
Et je parle de cette espèce de folie où, tout d'un coup, c'est comme la passion amoureuse, simplement elle est complètement destructrice. Et donc, il y a la possessivité, quelque chose de terrible. Et on voit dans les couples, lorsque l'un des éléments du couple devient possessif à l'égard de l'autre, il pourrit la vie de l'autre et il l'enferme.
Mais ça veut dire quoi être possessif ? Parce que c'est évident qu'on l'est toujours un peu.
Non, mais
ça veut dire quoi être possessif ?
Non, être possessif, c'est être maladivement jaloux.
Ah oui, maladivement.
Vous comprenez, alors pardonnez-moi d'être trivial, mais c'est, ça peut aller jusqu'à la folie. C'est un couple où quand l'épouse va aux toilettes, le mari l'accompagne parce qu'il a peur d'être trompé entre le moment...
Il est cinglé.
Oui.
Mais là, c'est ça. Là, c'est l'hôpital psychiatrique.
Oui,
moi, je l'envoie direct,
mais,
hein.
Mais je vous assure qu'il y a, des gens qui fonctionnent comme ça.
Ah oui, ils sont très grands malades.
Dans lesquels, non, mais on est devant des choses de délire.
Oui.
Et l'exemple même de la folie amoureuse, c'est Othello, qui a tellement peur de perdre l'objet de son mari, de son amour, qu'il finit par le tuer.
Oui.
Comme ça, il est sûr que personne ne lui prendra. Et donc, on retrouve ici le problème de fond. De quoi as-tu peur et qu'est-ce qu'on peut t'enlever ?
Je ne sais pas ce qu'on peut lui enlever, mais c'est direct l'hôpital psychiatrique. Hein.
Mais oui, mais
vous... C'est très grave. Hein.
Mais vous avez des choses extrêmement graves.
Oui, c'est vrai. Il y en a qui tuent.
Bon. Mais ça, c'est aussi la paranoïa. C'est un complexe de persécution. Ce sont des choses graves.
Infériorité, persécution.
Oui.
Les deux.
Oui.
Mais enfin, bon, on s'éloigne hein, de ces gens-là.
Écoutez, j'ai la chance de ne pas en rencontrer, mais je sais que...
Si, je sais, moi j'en ai rencontré, mais je veux dire, comme vous, des couples qui sont complètement cinglés. Hein.
Ah oui, non, mais...
Non, parce que l'autre ne va pas mieux. Hein. Pour accepter une chose pareille, elle ne va pas mieux que lui. Hein.
Oui.
Ça,
Ah non, mais ça, ça, il faut... Vous savez, un jour, quelqu'un m'avait dit... quand une femme se fait gifler, il faut qu'elle dise, écoute, je pars.
Voilà.
Et parce que là, ça ne va plus.
C'est ce que disait Freud. Hein ? Il disait d'une femme, par exemple, qui rencontrait qui se mariait avec quelqu'un qui l'a giflé ou qui buvait.
Oui.
Bon, elle disait, c'est horrible, j'ai pas de chance et tout. Freud disait, la première fois, c'est possible qu'elle n'ait pas eu de chance.
Oui.
Elle recommence après, elle épouse un autre, elle ne le savait pas. Qui boit aussi ?
Eh bien, elle a épousé le même.
Freud n'arrête pas de dire ça. Il a dit, là, c'est la compulsion, la répétition.
Et puis, parfois, vous avez des choses horribles. Une des paroles les plus tristes que j'ai entendues, c'est une femme qui disait, mon mari me gifle, mais quand il ne me gifle plus, j'ai l'impression qu'il ne m'aime plus.
Oui, c'est bien. J'avais raison de dire qu'elle est aussi malade que lui.
C'est un lien maléficier.
C'est un lien, voilà. Mais un sadique est toujours avec une maso.
Non, mais il y a des couples maudits.
Oui, mais ils ne le savent pas.
Et ils vont ensemble en enfer.
Mais alors là, je n'irai pas jusque-là.
Mais ils sont en enfer.
Oui, voilà, ils sont en enfer.
Ils sont en enfer.
Sur Terre, donc il est déjà fait l'enfer. Hein,
non, mais ce n'est pas qu'ils vont y aller,
c'est qu'ils y sont. Non, parce que j'ai rectifié, parce que parfois vous me faites peur quand même. Vous avez une morale très haute, que je n'ai pas.
Si.
Non.
Vous avez une morale
j'ai la morale de l'amour, mais ça s'arrête là. Oui. Je n'ai pas votre morale. Je ne fais pas le carême. Je n'ai pas votre morale. Je n'ai pas celle-là. Non.
Écoutez.
Oui, j'ai une grande morale. Mais elle vient uniquement de l'amour, pas d'aucune règle. À part les règles légales. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous êtes subtil. Voilà. Moi, je ne le suis qu'en amour. Hein. Je ne veux pas me chercher. J'ai la morale de l'amour. Non. Alors, l'amour peut rendre fou, avez-vous écrit ? Et il rend fou quand il n'est pas amour mais fantasme, possession, envie. Alors j'aime quand, comme à ce sujet, vous parlez en psychologue. Et c'est souvent le cas dans ce livre qui me plaît beaucoup. Vous dites tout ce que l'amour est et ce qu'il n'est pas. Alors vous affirmez, l'amour est un fait inouï. Je vous reconnais. Inouï, votre mot, leitmotiv. Prouvant votre enthousiasme de vivre, magnifique, et viscéral. En fait, vous montrez que le même mot « amour » peut célébrer la vie ou la briser. On ne s'attend pas à ces propos dans un livre consacré à la morale. Donc, bravo. Mais vous n'avez pas écrit un livre de morale, mais un livre de vie. Et celle-là que je vois que pour vous, vie et morale sont synonymes. Vous avez su le montrer en philosophe comme en psychologue, et je redis bravo. Êtes-vous conscient que votre définition de l'amour est très belle? Vous écrivez « L'amour est une responsabilité ». Et vous dites pourquoi. Et merci de le dire ici.
Oui. Alors, sur le rapport entre la vie et la morale, il y a une petite chose que j'aimerais dire. Parce que j'ai, finalement, sur ce livre que j'ai juste terminé sur la philosophie, je me disais, Socrate nous a expliqué que la sagesse n'est pas quelque chose qui vient des hommes, mais qui vient des dieux. Et je trouve que Spinoza a dit la même chose autrement. Il a dit, la philosophie, c'est pas moi, Spinoza, qui vais te l'apprendre, c'est la vie elle-même qui va te l'apprendre.
Ah, c'est beau. Je ne savais pas qu'il avait dit, non?
Et ça, non, mais c'est moi qui ai pensé qu'il
le
disait.
Ah, c'est vous?
Oui. Oui, et c'est moi qui l'ai écrit en pensant à Spinoza.
D'accord.
Hein, voilà.
Ben, bravo. Bon. Parce que la phrase me plaît. Ça m'étonnait même de Spinoza.
Je trouve que c'est très beau. Parce qu'il expliquait qu'au fond, c'est la nécessité de la vie elle-même qui parle à travers nous. Et c'est notre nécessité intérieure. Bien, ça c'est... Alors la question que vous me posiez concernait, pardonnez-moi, rappelez-moi.
La définition de l'amour. La définition de l'amour, mais vous m'en avez déjà parlé.
La responsabilité.
Oui, la responsabilité. Oui.
Alors, je crois qu'il y a, il y a trois niveaux de l'amour. Le premier niveau de l'amour, c'est l'élan, l'attrait que l'on a. Et un attrait physique. On est attiré. Et je crois que c'est très important. C'est
en
l'éros.
Premier.
Oui, c'est l'éros. C'est, on est irrésistiblement attiré. Et tout d'un coup, il y a un être qu'on a envie de connaître. On a envie d'aimer. Ça peut s'appeler ce qu'on appelle tomber amoureux.
Oui,
ou amoureuse.
Ou être attiré.
Oui, attiré. Bien. Ensuite, donc ça fait partie du jeu, je dirais, charnel, physique. Des relations d'attraction-répulsion qu'il y a au niveau de la vie et qui sont le jeu normal de la vie.
Tous les domaines, oui.
Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est le moment où, dans l'attrait, on va faire intervenir une responsabilité. Alors, il y a deux manières de responsabilité. J'ai un attrait pour une femme. Et j'ai une responsabilité, je ne vais pas lui sauter dessus pour l'agresser. Et donc, oui, je dois être plus fort que mon attrait et je dois avoir le respect de cette femme et la tenue à l'intérieur de mes désirs. Et donc, je dois apprendre à me tenir. Voilà. Et ça, c'est un problème majeur aujourd'hui où vous avez des êtres qui n'ont aucune barrière à leur pulsion. Et ils se précipitent sur les femmes. Parfois, ils les violent. C'est une horreur. C'est un malheur.
Aussi, je les vois comme des malheurs.
C'est un malheur. C'est un énorme problème. Oui, un énorme problème.
Mais l'attrait ne conduit pas obligatoirement à l'amour. Vous pouvez avoir un attrait physique et au bout d'une semaine, vous ne pouvez pas la supporter ni l'avoir
alors,
en peinture.
Oui, mais alors il n'y a plus d'attrait.
Non, mais c'est vrai. Ne suffit pas.
Mais ça commence par là.
Oui, mais ça peut être terminé ensuite, 3 jours après.
Ensuite, c'est brûlant. Mais après, donc ça quand. Alors ensuite, vous avez autre chose. Vous avez une histoire d'amour avec l'être aimé. Mais dans cette histoire, vous allez. Certes, il va y avoir de la passion ou de la passion physique, mais il y a aussi la responsabilité morale qui est passionnante. C'est-à-dire, à un moment, ces deux êtres qui se parlent avec noblesse, avec énormément de respect l'un pour l'autre. Et ce que j'aime beaucoup, c'est le mot de penser à l'autre.
C'est la responsabilité.
Et ça, je trouve ça merveilleux. Et je dis, aimer et penser, ça va ensemble, parce que aimer, c'est penser à l'autre. Et je trouve merveilleux de vivre une relation où il y a des attentions réciproque. On pense à l'autre. Vous voyez ? Pour Sophie, l'autre jour, je passe devant une vitrine et je vois une robe magnifique.
Oui.
Je dis, c'est pour elle.
Voilà.
Je l'ai achetée.
Oui, oui, je comprends bien.
Et j'arrive,
oui.
Et elle est heureuse.
Voilà. Voilà.
Elle est heureuse parce que vous j'ai pensé à elle.
Oui, mais ça, c'est normal.
Et puis, elle fait la même
quand
chose.
Quand on est avec quelqu'un, quand on aime quelqu'un, voilà. Et c'est même
ça.
Un minimum.
Voilà. Et je trouve merveilleux.
Et je veux dire, de penser, on est avec quelqu'un, c'est normal de penser à ce qui lui ferait plaisir.
Et de dire, qu'est-ce qui est bien pour toi ? Alors, elle fait la même chose. Et ça permet de comprendre ici l'expression italienne pour dire je t'aime.
Ti voglio bene.
Ti voglio bene.
Oui,
je veux ton bien. Oui, mais je trouve ça génial.
Oui, c'est génial, mais je le fais avec un ami aussi. Hein.
Oui, mais je trouve ça merveilleux, merveilleux. Vous me demandez qu'est-ce que c'est qu'aimer.
Oui,
aimer, c'est la traite. Puis après, vous avez le troisième amour, c'est l'amour céleste.
Oui, enfin, et au milieu, il y a quand même l'entente qui n'est pas physique.
Oui, oui, non, il y a une entente, non mais alors, dire, dans la responsable, alors l'entente...
Même dans le désir physique,
il y a quand même
autre chose.
Non, mais l'entente et le plaisir de s'entendre.
Voilà.
C'est-à-dire...
C'est ça que je voulais dire.
Alors, ça, c'est merveilleux, c'est bien évidemment. Vivre, c'est... Parce que vous avez des couples qui s'entendent. Bien évidemment, ils font l'amour... Mais ils ont cette entente morale.
Mais j'en connais plein qui ne le font pas, moi, en tant que psychologue.
Oui.
Enfin, je n'ai pas ouvert de cabinet. Mais j'en connais plein qui ne le font pas et qui s'aiment. Et qui...
Oui, qui s'entendent très bien. Non, mais il y a un âge de la vie pour tout. Parfois, vous avez la passion physique qui s'arrête, mais l'entente, la merveilleuse entente, et qui comble de bonheur,
tout
vous voyez.
Tout le monde n'a pas de passion physique.
Non, non. Puis parfois, elles n'ont qu'un temps. Hein. Oui. Mais ce n'est pas parce que ça n'a qu'un temps que l'amour s'arrête.
Puis alors
après, et après, vous avez l'amour céleste. Alors, l'amour céleste,
pourquoi après c'est... Enfin, pourquoi pas en même temps ?
Non, dans le développement de ma pensée.
C'est-à-dire alors là, il faut me raconter.
Ben, dans le développement de ma pensée, pour cadrer ma pensée, j'ai parlé de l'attrait, j'ai parlé de la responsabilité, j'ai parlé...
Avec une personne.
Non, c'est pas ça. C'est logiquement... C'est un lien logique. Je dis une chose, deuxième, troisième.
Mais
c'est tout.
Une personne.
Oui.
Vous ne parlez pas de Dieu, là.
Non, mais ça va à la même chose. C'est la même chose. Que c'est qu'à un moment, vous passez à un autre niveau. C'est, bien évidemment, c'est avec la même personne et c'est ensemble. Mais dans lesquels, à un moment, c'est l'amour fondamental de la vie qui passe à travers vous. C'est comme pour l'émerveillement. C'est plus simplement vous qui aimez. C'est la vie qui aime à travers vous. Et vous regardez l'autre avec les yeux de la vie. Alors là, c'est autre chose. Parce que là, on est dans des rapports de vie à vie. On est dans rapport...
Non, mais attendez, là, vous voulez dire que l'amour devient comme parental. C'est ça que vous voulez dire.
Parental.
Parce que pour moi, je ne comprends pas, oui.
Non, il n'est pas parental.
Parce que pour moi, je considère que quand on vit avec quelqu'un longtemps, il fait partie de la famille. Ça n'a rien à voir.
Non, non. Non, non,
mais je vois ce que vous voulez dire.
C'est dans le regard intérieur que vous avez sur quelqu'un.
Eh bien, je comprends.
À un moment, c'est un rapport de vie à vie. Qu'un moment,
mais ça veut dire quoi ?
Ça veut dire que vous faites votre vie avec quelqu'un. Et que ce n'est pas simplement...
Mais c'est ce que je dis, c'est familial.
C'est au-delà.
Ça rejoint la famille.
C'est au-delà.
Je comprends pas.
C'est un parcours de vie.
Ah oui.
Et c'est un moment,
parcours de vie.
Et c'est un moment où on dit à l'autre, tu me fais vivre.
Tu me fais vivre.
Et là, on est dans le ciel. Là, c'est magnifique. C'est-à-dire, c'est l'amour absolu.
On est dès le début dans le ciel quand on aime quelqu'un.
Non. C'est-à-dire, vous pouvez avoir un attrait.
Non, mais
vous pouvez avoir une responsabilité. Et vous pouvez avoir, alors tout de suite, effectivement, l'expérience de l'amour absolu. Et de l'amour absolu, c'est ce qui se passe quand tout d'un coup, il y a quelqu'un, il est devenu la vie de votre vie, l'âme de votre âme. Quand,
je comprends bien.
Quand Adam voit Ève pour la première fois, il dit l'os de mes os, la chair de ma chair, la prunelle de mes yeux. Donc c'est autre chose, c'est que là on est dans l'absolu.
L'absolu, avec des personnes qui ne sont pas pour l'absolu, vous savez, c'est dangereux. Hein
là, non, donc, non, mais voilà. ne cassez pas l'ambiance. Je veux dire.
Non, parce que c'est très rare ce que vous dites. C'est vraiment. Vous êtes
écoutez,
c'est
y a,
très, très rare quand même.
Mais il y a des choses magnifiques. Moi, j'ai vu, on a vu des êtres s'aimer et dans lesquels c'est la vie qui part.
Ben, moi aussi, j'ai vu mes parents, c'était l'amour absolu du début à la fin.
Eh ben, c'est magnifique. Et on pourrait appeler l'autre ma vie. et
ah
bah
oui,
maman,
non, mais ça, je suis d'accord. Hein, on peut appeler l'autre ma vie.
Mon amour, ma vie.
Il y a Dieu qui est la vie de quelqu'un.
Mais vous avez Dieu parle à travers des êtres humains qui vous envoient.
Oui, tous les êtres.
Comme tous les êtres. Non. Vous avez un être qui est pour vous.
Oui, alors ça, écoutez.
Qui est lié à vous.
Oui.
Et vous
auriez pu rencontrer quelqu'un d'autre.
Vous le dites, écoutez, je ne vais pas commencer à analyser, à expliquer. Je regarde simplement ce fait.
Oui.
C'est tout, je trouve ça magnifique.
C'est-à-dire
qu'à un moment, vous pouvez dire, il y a des rencontres de vie.
Ah, mais oui, il y a des rencontres de vie.
Eh bien, ça peut être l'être que vous aimez. C'est une rencontre de vie.
Oui.
Vous avez des êtres qui changent votre vie.
Oui.
Et vous pouvez très bien dire, vous faites une rencontre spirituelle avec quelqu'un qui n'est pas votre mari.
Oui.
Et qui est une rencontre de vie.
Oui.
Et peut-être que cette personne va vous apporter
de vie, j'y crois.
Quelque chose que votre mari ne vous apportera pas. Mais parfois, il peut se faire que la rencontre de vie et le mari soient exactement la même chose. Et là, tout d'un coup, c'est formidable. Voyez. Et là, on touche à l'absolu de l'amour. Mmh. Voilà.
L'absolu de l'amour, c'est le mot absolu qui me dérange. Parce que quand on aime toujours... Absolument, mais c'est un mot qui ne veut pas dire grand-chose quand même. Il y en a tant qui se trompent d'absolu.
Oui, mais il faut aussi dire, ce n'est pas parce qu'on se trompe que ça n'existe pas. Et il faut savoir...
Ça existe, mais il y a un Dieu qui est absolu.
À un moment, les choses humaines peuvent être absolues. Et c'est ça qui est magnifique. C'est-à-dire, ne doutez pas de l'amour de Dieu qui est capable d'envoyer l'absolu à d'autres que lui. Et de le faire vivre par d'autres. Et ça, c'est merveilleux.
Oui, des moments d'absolu.
Oui, c'est rare. Oui, bien sûr que c'est rare. Mais qu'est-ce que c'est bien que ce soit rare? Qu'est-ce que c'est bien que ce soit difficile?
Oui, bien sûr.
Et ça, c'est merveilleux.
Oui.
Voilà.
Oui. Je sais que Dieu envoie des rencontres fabuleuses.
Et qu'il y a des rencontres célestes et il y a des moments... et puis vous avez des paroles de vie, des rencontres de vie.
Mais ça, je vous rejoins totalement.
Voilà.
Ça, je vous rejoins totalement. Hein.
Voilà. Et donc, c'est pour ça que
je parle
de ce moment. Et ça peut aller très loin parce que, vous voyez, c'est des moments où on devient des maîtres les uns pour les autres. Et on s'aide à grandir. Vous voyez. Et l'autre,
ça, c'est encore autre chose.
Et l'autre, vous dire un maître.
Il faut encore qu'on vous écoute.
Oui.
Non, là, vous mélangez tout, hein.
Non.
Si.
Non.
Si.
J'ai dit, il y a des moments où au-delà...
Pas dans votre esprit, mais quand vous parlez, vous mélangez tout. Parce que, pourquoi être un maître? On apprend toujours à quelqu'un. On est toujours le maître,
mais
quand on aime quelqu'un, même dans l'amitié.
Oui, ben c'est ce que je
même
dis.
Dans l'amitié.
Mais on dit la même chose.
Oui, on dit la même chose.
On dit exactement...
on dit la même chose.
Vous dites non pour dire la même chose. Vous dites... on est d'accord.
Oui, on est d'accord.
Oui.
Parce que vous employez souvent le mot maître.
Ben, je trouve que de temps à autre, la vie est un maître. Et parfois, parfois, l'autre est un maître.
Et momentanément.
Comment?
Momentanément.
Parfois, momentanément, bien sûr.
Vous êtes devant quelqu'un, il vous apporte quelque chose, vous l'admirez.
Oh, c'est plus que ça.
Vous le voyez.
C'est quelque chose de haut niveau.
Bien sûr.
Voilà.
Vous avez raison.
C'est bien.
Non, mais je vous applaudis. Comme on n'a pas le même psychisme, parfois, on dit les mêmes choses avec des termes différents.
Alors, ce n'est pas un problème de psychisme, mais de sensibilité, d'histoire, d'expression. Mais c'est vrai qu'on arrive parfois. Bien sûr, on arrive à se rejoindre, bien sûr.
Oui, c'est bien, mais une différence de caractère. Même si on a le même esprit.
Oui.
C'est une différence de caractère.
Oui, oui.
Voilà. C'est comme vous aimez le carême, par exemple. C'est tout à votre honneur. Moi, je n'en vois pas la nécessité.
Ah oui.
Mais alors, pas du tout. Voilà. Donc, je ne vais pas revenir sur ça. Ben, c'est une question de différence de caractère.
Ben oui, pour vous, ça a commencé hier.
Mais je ne l'ai pas fait.
Ben oui.
Non, mais attendez. Mais consolation, c'est Dieu et le plaisir. Vous ne croyez pas que je vais me lancer dans le carême pour rentrer en dépression?
Vous n'allez jamais rentrer en dépression.
Mais je pourrais.
Non.
Pas en dépression, j'aime pas ce mot. Mais j'aurais pu sombrer tant de fois. Mais il y a cette force, mais Dieu m'envoie les deux forces. Hein.
Très bien.
Lui, la sienne.
Très bien.
Et le plaisir.
Parfait.
Je ne ferai pas de carême.
Continuez.
Oui. Vous voyez, vous ne pourriez pas vivre avec moi. Hein. Parce qu'elle le fait, Sophie, le carême?
Non.
Ah bah alors ça va. C'est bien. Vous la laissez libre.
Absolument.
C'est parfait. Décidément, vous êtes parfait. Hein.
Non.
Non, mais enfin, vous êtes proche de la perfection.
Bon.
Alors, on continue. Hein. Alors, d'autres questions. On s'amuse bien, vous voyez.
La preuve, notre ami vient nous écouter, donc c'est bien.
Oui. Non, ça c'est...
C'est bon signe.
Oh là là. Bertrand. Excusez-moi, je tousse. Bertrand, j'applaudis fort, une fois de plus. Quand vous en êtes pris à Freud, à Darwin, à tous ceux qui ont retiré le juste orgueil de l'homme et qui ont été félicités pour leur humilité. Dire que l'homme n'est pas le roi de l'univers n'est pas pour vous un acte d'humilité, comme il peut sembler. Vous arrivez, vous rectifiez magnifiquement. Alors je vous laisse la parole pour continuer.
Alors vous avez un texte de Freud qui explique qu'il y a trois génies de l'humanité qui ont libéré l'humanité de son orgueil. Enfin, il y en a quatre. Trois, pardon. Vous avez d'abord Copernic qui a montré que ce n'est pas l'univers qui tournait autour de la Terre, mais la Terre qui tournait autour du Soleil. Bien. Vous avez ensuite le deuxième, Darwin, qui a expliqué que l'homme descendait de l'animal et n'était pas du tout une créature divine. Très bien. Et savez-vous qui est le troisième génie de l'humanité qui est venu libérer les hommes de son orgueil et de son narcissisme ?
Freud.
Eh bien, Freud lui-même. Il explique que lui est le troisième génie de l'humanité à travers la découverte de la conscience. Alors, il ne le dit pas, il dit la psychanalyse. Oui, mais quand il dit la psychanalyse, il pense lui. Donc, je trouvais déjà très savoureux le fait que Freud nous explique qu'il faut se libérer du narcissisme et qu'il est au comble d'une crise narcissique par rapport à lui-même en s'octroyant la qualité de génie de l'humanité à côté de Copernic et Darwin. Bon, ça c'est le premier point. Le deuxième point, je crois qu'il est magnifique de dire que l'homme est le roi de l'univers pour des raisons spirituelles et pas pour des raisons cosmologiques. Ben, tout simplement parce que le pire des orgueils, c'est de n'avoir aucun orgueil.
Je trouve ça fabuleux.
Et je pensais ici à la perversion sexuelle qui dit « tu peux faire tout ce que tu veux avec mon corps ». Donc ça veut dire « je suis tellement fort que je peux tout faire ». Et puis, vous avez les pulsions suicidaires, où je peux tout faire avec moi-même, même me suicider. Et ce que je trouve, c'est ce qui nous sauve, c'est d'avoir un minimum d'orgueil et de dire à quelqu'un, tu ne feras pas n'importe quoi avec mon corps et je ne vais pas, moi, faire n'importe quoi avec moi-même. Et on ne fait pas n'importe quoi. Et qu'est-ce que ça veut dire, cette histoire, comme quoi je ne suis qu'un satellite du Soleil? Je ne suis que, finalement, un animal. Parce qu'il faut voir la conséquence. Vous comprenez ? On avance des thèses comme ça, et puis on ne regarde pas ce qu'il y a derrière. Hein ? Il faut voir les dommages collatéraux. C'est, on n'est rien, donc on peut tout faire avec moi, puisque je suis rien. Et là, on voit apparaître l'orgueil masqué. Et donc, je pense...
Oui, c'est très bon, l'orgueil masqué, c'est... vous avez bien trouvé. Hein,
et, je trouve que... Il y a, quand il a été dit « l'homme est le roi de l'univers », bien ça veut dire que tu dois être à la hauteur et tu dois avoir de la tenue. Quand Pindare dit « deviens qui tu es », ça veut dire « sois à la hauteur de la noblesse qui est en toi ». Tu es noble, traite-toi noblement, on ne fait pas n'importe quoi avec moi, on ne parle pas n'importe comment. Il y avait un jour un mari qui parlait très mal à sa femme. Et une psychologue lui a dit, vous allez aller voir votre mari et vous allez lui dire, je t'interdis de me parler sur ce ton et d'utiliser ces mots grossiers à mon, et ordurier à mon égard.
Oui.
Ben, je trouve très important.
Mais oui, mais
je trouve l'idée qu'on peut tout faire avec soi et être traité comme une serpillière par l'autre, je ne suis pas quelqu'un... sur lesquels on s'essuie les pieds.
Vous parliez de votre mère, moi, oui. Ça me rappelle la mienne. Oui. Qui disait exactement comme vous.
Ah ouais.
parce qu'elle trouvait que je permettais trop de choses.
Non, non, il faut être...
En parlant toujours de psychologie, en excusant tout le monde par la psychologie.
Et
vous avez raison.
Et je trouve que ça fait du bien à tout le monde d'avoir le sens de la dignité et de dire on ne fait pas n'importe quoi.
Et vous savez ce qui est beau dans vos livres ? Parce que c'est vous qui me mettez sur la voie.
Oui.
C'est ça. Si je vous résumais, par rapport aux hommes, vous avez le don de montrer la noblesse.
Ah, j'adore ça.
De l'homme.
Ah, ça, j'adore ça. Et la noblesse,
c'est de l'homme. Parce que vous l'avez en vous. Hein. Ça, vous l'avez en vous.
Vous savez, dans les vertus morales, j'aime la tenue, la droiture,
oui,
et le style.
C'est des phrases qui reviennent souvent dans tous les livres.
Et ça, j'aime beaucoup ça.
La tenue, la droiture.
Et le style. Et je trouve que c'est très important. Et que je trouve magnifique qu'il y ait, justement, dans la tradition chrétienne bien comprise,
oui,
le fait de montrer qu'il y a une royauté de l'être humain, il y a une royauté de l'humanité, et il ne faut pas lui retirer sa couronne, c'est magnifique.
Eh bien, vous avez su le montrer dans tous vos livres.
Et ça amène l'humilité, la tenue, ça fait du bien à soi, ça fait du bien à tout le monde. Et justement, on apprend les choses par la noblesse. Vous savez, moi j'ai eu des élèves, il y en avait qui ne se lavaient pas. Et je vous assure, c'était par orgueil. C'est-à-dire, je peux tout faire, je peux puer, finalement. Et là, il faut leur dire, écoutez, non. Voilà, vous ne pouvez pas infliger ça aux autres.
Ah non, c'est horrible. C'est affreux.
Et il n'avait pas conscience.
Oui.
J'ai même eu une élève qui a eu le culot de me dire, c'est pas à moi à faire attention aux autres, c'est aux autres à faire attention à moi. Et là, je lui dis, écoutez, je souhaite jamais vivre dans la même société que vous.
Voilà.
Parce que c'est une société épouvantable que vous nous proposez. Donc, si vous voulez, je crois que c'est l'erreur de la psychologie, c'est d'avoir dit, l'homme va être humble parce qu'il va être un animal. L'homme va être humble parce qu'il va être un roi. Et il ne va pas tous permettre.
Non, mais là, je vous applaudis complètement, puis je vous rejoins à 100%.
Quand on est un roi,
oui,
on vit royalement.
Et dignement.
Et c'est une sacrée règle, vous voyez.
Oui,
se voit très bien. Quand vous êtes un champion, vous devez être à la hauteur du champion que vous êtes. Et ce n'est pas parce que vous êtes un champion que vous, vous avez de l'orgueil, justement. Vous devez être encore plus humble que les autres parce que vous êtes un champion, parce que vous êtes excellent. Vous voyez, ça me paraît très, très important.
Oui, là, c'est une autre nuance par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure.
Et l'erreur gigantesque,
oui,
de la science et de la psychologie qui a cru bien faire en faisant une morale minable. Pauvre morale, avec l'humiliation de l'être humain.
Totalement.
Et puis, je me réjouis jamais d'humilier les êtres humains.
Oui.
C'est pas comme ça qu'on les fait progresser, en disant, voilà, tu n'es qu'un satellite du soleil, tu n'es qu'un épiphénomène de l'animalité.
Ça, c'est pas grand-chose, quoi.
Je trouve que c'est minable.
Oui,
voilà.
Mais en revanche, c'est magnifique que vous ayez su mettre ce
fait aussi
bien en lumière.
Oui.
Hein,
merci.
Dans tous vos livres. Cher Bertrand Vergely, cher Bertrand, il est l'heure de nous quitter momentanément, car nous serons à nouveau ensemble très bientôt. Bon, je vous remercie pour cet entretien, car vous qui allez par Mons et par Vaux, portez la haute parole de votre intelligence, et parfois si loin, vous n'oubliez jamais nos heures de Radio Courtoisie. Je vous salue avec chaleur. Chers auditeurs, chères auditrices, je vous dis à bientôt et vous salue avec l'amitié et la considération que vous connaissez.
Vous venez d'entendre le libre journal de Lumière de l'Espérance dirigé par Isabelle Prêtre, émission préenregistrée le 19 février 2026, diffusée sur Radio Courtoisie dimanche 22 février de midi à 13h30 et réalisée par Michael. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie 61, boulevard Murat, 75 016, Paris.